Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Et puis, nous sommes très heureux, Muriel et moi, d'être ici. Je me présente, je suis... Muriel, je ne la présente pas. Vous êtes venu pour elle. Je vais lui tirer les vers du nez. Je suis son éditeur, son principal tortionnaire. Je m'appelle Jean-Marie Leclaftine. Il m'est arrivé de venir dans ces lieux. Je suis bordelais moi-même d'origine. Et j'ai grand plaisir à parler avec Muriel de ce nouveau livre, La vie des elfes, que nous avons beaucoup attendu. Je dis ça absolument sans aucune ironie.
Bien sûr.
Elle a fait le choix de mettre entre 7 et 9 ans entre chacun de ses livres.
Alors, c'est fou. Entre 6 et 8 ans et demi.
6 et 8 ans et demi.
Ce qui n'est pas du tout la même chose.
Et donc ce livre, on l'a beaucoup attendu, mais pour une raison, pour beaucoup de raisons. D'abord parce que Muriel prend le temps d'écrire. Et c'est un écrivain comme nous les apprécions beaucoup par moment quand nous sommes surchargés de manuscrits. Mais donc elle prend le temps d'écrire, de réfléchir à ce qu'elle va faire. Et puis elle a écrit un livre, L'élégance du hérisson, qui l'a amené sur les routes. Et qui lui a permis de voyager beaucoup chez les éditeurs du monde entier qui ont traduit ce livre, qui a connu un succès exceptionnel, disons, historique. Et le choix qu'elle a fait d'écrire La vie des elfes, c'est un choix à la fois surprenant et assez courageux, parce qu'elle aurait pu se contenter de continuer dans la veine du livre précédent. Elle a choisi de changer totalement. Alors, elle va nous expliquer pourquoi, mais peut-être auparavant, serait-il bon d'entrer directement, je pense, dans la langue même du livre. Je suppose que certains d'entre vous l'ont déjà lu, mais d'autres non. Et jusqu'ici.
Oh, tu commences au livre.
Oui.
Oh, jusqu'ici, oui. Oui.
Et là, on est dans un univers totalement différent, et Muriel nous expliquera pourquoi et comment. Premier chapitre, La petite des Espagnes. La petite passait l'essentiel de ses heures de loisirs dans les branches. Quand on ne savait pas où la trouver, on allait aux arbres. D'abord au grand hêtre qui dominait la pentine nord et où elle aimait à rêver en observant le mouvement dans la ferme. Ensuite, au vieux tilleul du jardin de curé, après le petit muret de pierres fraîches. Et enfin, et c'était le plus souvent en hiver, au chêne de la combe ouest du champ attenant, un ressac du terrain planté de 3 spécimens, comme on n'en avait pas de plus beau au pays. La petite nichait dans les arbres, tout le temps qu'elle pouvait dérober à une vie de village faite d'études, de repas et de messes. Et il arrivait qu'elle y invitât certains camarades qui s'émerveillaient des esplanades légères qu'elle y avait aménagées et passaient là de fiers jours à causer et à rire. Un soir, qu'elle se tenait sur une branche basse du chêne au milieu, alors que la combe s'emplissait d'ombre et qu'elle savait qu'on allait venir la chercher pour s'en retourner au chaud, elle décida plutôt de couper par le pré et d'aller saluer les moutons du voisin. Elle partit dans la brume naissante, elle connaissait chaque motte d'herbe dans un périmètre qui allait des contreforts de la ferme de son père jusqu'aux frontières de celle du Marcelot. Elle aurait pu fermer les yeux et se repérer comme à des étoiles aux boursouflures des champs, joncs de ruisseaux, pierres des chemins et inclinaisons de pentes douces. Au lieu de cela, et pour un motif particulier, elle les ouvrit grands. Quelqu'un marchait dans la brume, à quelques centimètres à peine, dont la présence faisait à son cœur un étrange pincement, comme si l'organe s'enveloppait sur lui-même en amenant en elle de curieuses images. Elle vit un cheval blanc dans un sous-bois mordoré et un chemin pavé de pierres noires qui luisait sous les hautes frondaisons. Voilà, ça commence comme ça. Ça a commencé comme ça, comme disait Céline. Et on est dans un univers plus ou moins onirique, on est aussi dans un univers assez réaliste. On verra que cette petite fille dont tu vas nous parler a un ancrage tout à fait terrien. mais en même temps, elle est entourée de créatures impalpables, étranges, dont on ne connaît rien au début. Le livre s'appelle « La vie des elfes ». On va mettre un certain temps à voir des elfes arriver. Alors pourquoi ce choix ? Pourquoi avoir choisi d'entrer dans le monde, dans un monde qui ressemble ou qui s'apparente à celui de la littérature d'anticipation ou la littérature fantastique plutôt ?
Merci beaucoup pour la lecture. Alors Jean-Marie, qui est mon éditeur, mais aussi un ami, c'est pertinemment que les auteurs choisissent rarement ce qu'ils écrivent. Et ça n'a pas été un choix. Après chaque roman, et en particulier après Élégance du hérisson, parce que j'ai dû en parler beaucoup, je n'ai absolument pas su sur quoi je voulais écrire, mais je savais avec certitude que ça ne pouvait pas être la même chose et que je ne pouvais pas rester dans la même veine. C'est impossible, parce qu'un des immenses plaisirs de l'écriture, c'est d'être surpris par ce qui vient et de se plonger dans cette légère transe qui fait que lorsqu'on écrit, on découvre soudain un inconscient ou un insoupçonné qu'on avait en soi et qui prend la forme de personnages, de situations, de scènes totalement inédits. Et c'est ce qui s'est passé pour La vie des elfes. En réalité, comme après mon deuxième roman, après Élégance du hérisson, j'ai eu la chance incroyable d'aller vivre au Japon et de passer 2 ans à Kyoto. J'étais persuadée que j'écrirais un roman qui se passerait au Japon, à Kyoto, et où j'essaierais de restituer tous mes émerveillements nippons. Et c'était impossible, pour la même raison que celle que je viens de dire, c'est-à-dire que c'était un choix conscient. J'avais très envie d'écrire sur le Japon, j'avais la volonté ferme d'écrire un grand roman qui se passerait à Kyoto, et ça ne venait pas. Ça n'est absolument pas venu. J'ai écrit un très beau scénario qui se passait à Kyoto avec une histoire très complexe dont j'étais très heureuse parce que jusqu'à présent, j'étais incapable d'inventer la moindre histoire un peu structurée et ambitieuse. Et puis au moment de l'écrire, ce beau scénario, j'en avais aucune envie. Et à la place, ce qui s'est passé de façon totalement imprévue pour moi et incompréhensible, c'est une petite fille dans un village de Bourgogne, par une nuit de neige qui déboule sur le perron de paysans qui la recueillent. Et elle est enrobée d'un halo de mystère dont je ne savais pas moi-même d'où il venait et ce que j'allais en faire.
Elle s'appelle Maria, donc il y a quand même une connivence avec le Japon. C'est ce rapport très particulier qui se développe dans le livre avec la nature. Très, très intime, très délicat et très mystérieux que l'on peut retrouver dans les jardins de Kyoto. Il y a quelque chose comme ça.
Ah oui, l'idée vraiment saugrenue et qui fait que j'entends beaucoup que c'est un roman fantastique ou que c'est de l'heroic fantasy, alors que j'ai l'impression finalement que c'est assez classique, même si les curseurs de l'imaginaire sont poussés un peu plus loin que d'habitude. Un des déclencheurs de la présence d'elfes dans ce roman, c'est le fait qu'un jour, dans une discussion avec un ami, j'ai essayé de comparer les jardins de Kyoto à quelque chose, à quoi l'expérience puisse se raccrocher, et j'y arrivais pas, parce qu'ils sont d'une telle pureté, d'un tel absolu esthétique, d'une telle limpidité dans la beauté parfaite, que c'est impossible de mettre les mots justes là-dessus, sauf à avoir des envolées lyriques qui finalement ne restituent pas le sentiment très simple en même temps qu'on a quand on s'y trouve. Et j'ai dit à cet ami, si les elfes avaient des jardins, ce seraient ces jardins-là. Et l'idée a surgi à ce moment-là. Et c'est vrai que l'expérience japonaise, c'est l'expérience d'un rapport à la nature très différent de celui qu'ont les Occidentaux à la nature qui les entoure. En particulier, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés au Japon, mais en particulier, la première expérience que j'ai eue des jardins, c'est aussi celle des temples, parce que les jardins de Kyoto sont ceux des temples shintoïstes et bouddhistes qui encerclent toute la ville. Et c'est une expérience incroyable parce que nos églises sont de pierre, elles sont closes. Le culte s'y fait à l'intérieur d'un espace coupé du reste du monde et dans lequel l'esprit doit s'élever, est censé s'élever. Tandis qu'au Japon, les temples sont ouverts sur l'extérieur. Ils sont d'abord de bois, d'un matériau organique beaucoup moins défensif que la pierre. Et ensuite, il y a une circulation totale dans l'espace, puisqu'ils sont ouverts sur l'extérieur. On y voit les arbres lorsqu'on est à l'intérieur des temples. Les cloisons peuvent s'en ouvrir en permanence. Et cette expérience-là était celle de la connivence profonde entre l'esprit et la nature. De la même manière, dans les jardins de Kyoto, on a l'impression que par une extraordinaire quintessence d'art et d'artifice, parce que ce sont des jardins minutieusement ordonnés, pensés, paramétrés, millimétrés, on atteint quand même à une quintessence de nature. Et la vie des elfes, c'est ça. C'est l'émerveillement conjoint et l'enchantement conjoint de la nature et puis de l'art.
La petite Maria donc arrive dans ce village. On ne sait pas exactement à quelle époque on est.
Non, parce que ça a commencé comme deux contes, et donc avec le temps indéterminé, intemporel du conte, même si je crois qu'on devine quand même que ça se passe entre deux guerres. Oui. Enfin, ça pourrait se passer dans l'entre-deux guerres, sans aucun souci d'exactitude historique.
C'est ce qui est très, très réussi et très étrange dans ce livre, parce que la petite Maria a un rapport très charnel avec la nature, avec le monde qui l'entoure, mais en même temps, c'est un personnage mystérieux. Elle a un contact surnaturel avec la nature, disons. Et ce qui est très réussi, c'est de nous faire sentir que nous sommes, par exemple, aux alentours de la guerre de 14, enfin de ces grands cataclysmes mondiaux qui ont retourné la Terre, et en même temps dans un espace-temps qui est peut-être à côté de ça ou un peu différent.
Et ça, c'est probablement aussi très japonais. Et je vais cesser de parler du Japon après, parce que ça ne se passe vraiment pas du tout au Japon. Mais je crois que l'expérience japonaise a eu un impact très fort, parce que de la même façon, c'est un pays qui réussit à produire un sentiment de flottement par son esthétique même, dans les jardins en particulier, mais pas seulement, dans tous les arts. Une sensation de flottement et d'atemporalité qui fait qu'il y a plein de lieux au Japon où on est. Et il y en a partout dans le monde, mais en particulier, ça a été très intense pour moi à Kyoto, où on est à la fois dans la vie et en même temps hors de l'espace et hors du temps, avec une sensation d'ineffable et en même temps d'intensité dans l'expérience à la fois matérielle, charnelle et spirituelle que je n'ai rencontrée nulle part ailleurs. Mmh. Et peut-être que le fait que des contes aient naturellement surgi, ça vient aussi de là.
Donc venons-en au conte, justement. On ne va pas raconter toute l'histoire, mais enfin, il faut quand même donner des éléments un peu plus concrets sur ce qui se passe dans le livre, notamment au début. La petite Maria est apparue, on ne sait pas bien d'où elle vient. Elle a cette broderie énigmatique sur elle, avec des mots en espagnol. Alors, qui est-elle et quelles sont ces créatures qui rôdent autour d'elle? Quel est le monde? Est-ce que tu peux parler simplement des gens du village, de la façon dont se déroule la vie dans ce village?
Ah oui, il y a deux pans dans l'histoire de Maria, parce qu'elle va s'entremêler avec celle de Clara, l'autre petite fille du roman. Le premier pan, qui est extrêmement réaliste, c'est la vie au village, avec une poignée de paysans valeureux qui vont la recueillir, qui vont l'aimer, et qui vont aussi bénéficier en retour de ces pouvoirs extraordinaires, puisque leur terre va devenir beaucoup plus florissante. Et à partir du moment où je me suis retrouvée dans cette ferme avec cette petite Maria, dont je ne savais moi-même rien et dont je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle elle avait surgi sous ma plume, et à partir du moment où les mystères se sont accumulés, pour lesquels je n'avais aucune réponse moi-même, j'ai su que j'avais envie de rester là, parce que j'avais envie de rester dans une ferme témoin d'un temps désormais disparu, où on vivait en connexion plus étroite avec les saisons, avec la terre, avec les arbres. Et ça a été le fil de la majeure partie du roman. Et donc Maria, elle est recueillie par ces paysans qui vont très vite comprendre que son empathie avec la nature a une origine puissante et magique. Mais il faudra probablement attendre le volume 2 pour savoir pourquoi il y a des mots en espagnol. Pourquoi il y a des mots en espagnol gravés sur les langes dans lesquelles elle est enveloppée lorsqu'elle arrive au village. Et non pas 9 ans, parce que comme tu sais, Jean-Marie, le plus difficile, c'est presque pas d'écrire le texte, c'est de commencer. C'est qu'une histoire surgisse qui donne le désir de s'y plonger et qu'un langage naisse qui donne le désir de le polir. Et donc ça y est, ça, tout ça, c'est déjà en place.
Oui, beaucoup de choses sont déjà en place, des personnages existent. Et, bon, mais nous y reviendrons plus tard et peut-être que dans le public, il y aura des questions sur la suite. En effet, nous espérons ne pas attendre aussi longtemps. Donc la petite Maria arrive dans ce village, elle est dotée de pouvoirs exceptionnels dont on ne connaît pas au début la nature. Il y a des femmes autour d'elle qui sont importantes, dont tu peux peut-être parler.
Mais je savais aussi que j'avais envie de parler des gens de la terre et j'avais envie de parler de la campagne que j'ai connue lorsque j'étais enfant et qui a déjà disparu, comme tout disparaît. Et comme au fil des générations, les mondes s'écroulent. Je savais que j'avais aussi... Quelle était ta question ? J'ai perdu mon fil.
Sur les femmes, enfin l'entourage.
Et je savais aussi que j'avais envie dans ce texte de faire des portraits de femmes et d'être avec les femmes qui entourent Maria et de passer du temps avec elles. Alors il y avait plusieurs types de femmes pour lesquelles j'ai pris un immense plaisir à essayer de... dont j'ai pris un immense plaisir à essayer de restituer la grâce... Il y a des vieilles mémères bourguignonnes qui doivent beaucoup à un auteur que je chéris de tout mon cœur et qui est Henri Vincenot. Et je trouve que j'ai vécu, lorsque j'étais jeune enseignante, dans le village qui se trouve juste à côté de celui où vécut Vincenot et où la plupart de ses textes prennent place. Et donc il y a des vieilles mémères qui sont des femmes extraordinaires parce que dans leur dénuement, elles ont la capacité incroyable de... se connecter à l'essentiel, aux plantes et à leurs vertus thérapeutiques, aux saisons, à l'esprit de la nature.
La cuisine aussi,
Oui.
La nourriture. Parce
c'est
que
étonnant c'est... que tu me parles de ça. Oui, elles ont le don du monde et elles ont la capacité de comprendre le monde dans sa simplicité et dans sa gloire mêlée. Et puis il y a d'autres femmes aussi, et j'ai compris assez vite que la vie des elfes serait aussi une longue suite de portraits féminins, et une longue suite de portraits féminins parce que j'avais envie de les montrer non seulement dans leur singularité, mais aussi dans leur essence de femme, et dans la solidarité qui fait que toutes les femmes sont des femmes.
Donc ce village est un village apparemment ordinaire, on y cultive les champs, on y soigne des bêtes... la vie est plutôt prospère, surtout depuis la naissance de Maria, enfin l'arrivée de Maria dans le village. Mais on sent très vite qu'un danger rôde autour du village.
Oui, ça c'était une autre chose que je savais d'évidence, sans avoir aucune idée de pourquoi et surtout comment, c'est qu'il y avait une guerre qui s'approchait et que la description émerveillée des enchantements naturels et artistiques, ensuite, avec l'autre personnage, iraient de pair avec la menace qui pèse sur eux. Et je savais que j'avais envie de décrire l'approche d'une grande guerre, dont la première bataille se déroule dans ce volume, et dont le volume suivant racontera toutes les autres batailles et le dénouement.
Le roman va se dérouler... non seulement en Bourgogne, où nous arrivons au début du livre, mais aussi en Italie, où nous allons rencontrer l'autre personnage important du livre, enfin, un des deux personnages centraux. Il y a Maria en Bourgogne, Clara dans les Abruzzes, en Italie. Il y a beaucoup d'autres personnages dans le livre, hein, mais ces deux-là sont évidemment les figures les plus importantes. Alors peut-être pourrais-tu nous introduire à la grâce de Clara en nous lisant un extrait.
Je vais vous lire un très court extrait que je vais situer d'abord. Donc on est dans les Abruzzes, même chose, dans l'entre-deux-guerres, dans un village complètement perdu, sur les versants de ces montagnes arides et âpres. Et la petite Clara, elle aussi une orpheline, et elle aussi, par une nuit des neiges, a été recueillie par le curé du village. Alors elle n'est pas entourée d'une poignée de paysans sympathiques, mais elle vit entre un curé peu amène et une vieille bonne illettrée qui lui raconte des histoires. Et puis un jour, par des circonstances étranges, un piano arrive au presbytère, à la cure, et on apporte, on le met dans l'église, puisqu'il va désormais être le piano de l'église. Et Clara entend pour la première fois un accordeur jouer quelques notes de piano, puis demande à son oncle de jouer un morceau, regarde la partition, et son oncle comprend qu'il y a quelque chose de très étrange, lui propose de s'asseoir devant le piano, et voilà ce qui se passe. Les mains de la petite étaient fines et gracieuses, plutôt larges pour une enfant qui n'avait fêté ses 10 ans qu'en novembre, et extrêmement déliées. Elle les tint au-dessus des touches comme il fallait pour entamer le morceau, mais les laissa en suspens pendant un temps où les deux hommes eurent le sentiment qu'un vent ineffable soufflait dans l'espace de la nef. Puis elle les posa. Alors une tempête balaya l'église, une vraie tempête qui fit s'envoler les feuilles et rugit comme une vague qui monte et retombe sur la mer des rochers. Enfin, l'onde passa et la petite joua. Elle joua lentement, sans regarder ses mains et sans se tromper une seule fois. Alessandro tourna pour elle les pages de la partition et elle continua de jouer avec la même inexorable perfection, à la même vitesse et avec la même justesse, jusqu'à ce que le silence se fasse dans l'église transfigurée.
Donc là, Maria a un contact très particulier avec la nature. Clara, elle a un contact très mystérieux avec la musique, avec le monde de l'art. Et ces deux petites filles sont appelées à se rencontrer. Il y a quelque chose qui... Elles ont chacune des dons particuliers, mais seule l'union de ces dons peut sauver le village et le monde qui est menacé par des forces obscures, mais dont on ne connaît rien pendant longtemps dans le roman.
Et moi-même, d'ailleurs, pendant longtemps, je n'ai rien su de ces forces obscures, si tu te souviens bien.
Oui.
Et j'en sais toujours pas.
Tout de même.
L'essentiel, on saura.
On en apprend quand même pas mal. Au fur et à mesure de la lecture, on sent que tu as fait des progrès dans la connaissance des forces obscures.
Oui. Ouais. Oui, et Clara, mais je vais juste dire quelques mots sur Clara. Clara est très naturellement le deuxième versant de mes enchantements de toujours. Celle des chemins de campagne que j'ai arpentés lorsque j'étais enfant, et puis l'émerveillement devant la découverte des œuvres de l'art et des produits de la création humaine. Et Clara est devenue pianiste, mais elle est entourée aussi, puisqu'elle va aller à Rome parfaire son éducation musicale, elle est entourée d'artistes, de peintres aussi, et de représentants de tous les arts.
Elle a un maître de musique qui s'appelle Accevati, et qui est un personnage très important du roman, parce qu'il n'est pas seulement... Il reconnaît tout de suite en Clara un être d'exception qui a comme lui un rapport surnaturel avec la musique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le monde des musiciens qui doivent travailler 10 heures par jour pour arriver à obtenir un résultat acceptable. Là, d'emblée, Clara, comme son maître, sont dans une sphère différente, supérieure, et ils se reconnaissent, et il a des choses à lui apprendre qui ne sont pas seulement de l'ordre de la technique musicale.
Alors, ce qui est extraordinaire avec Clara et ce qui a fait que le personnage, j'ai su que j'allais passer beaucoup de temps avec ce personnage-là aussi et qu'il a teasé mon désir de le connaître mieux. Ce qui est extraordinaire avec Clara, c'est que quand elle joue, elle ne produit pas seulement de beaux sons, elle ne joue pas seulement avec émotion, mais elle réussit à se connecter aux terres qui ont inspiré les compositeurs des morceaux qu'elle joue. Elle réussit à voir dans le cœur des autres êtres humains et elle se connecte à un monde de création et d'empathie qui va lui permettre d'entrer en contact avec, avec Maria.
Elles ont, ces deux petites filles ont une mission dont elles ignorent tout au départ. Et peut-être faut-il dire un mot de plus sur Achavati, justement, qui est un personnage qui n'appartient pas seulement au monde des humains.
Alors, le maestro Achavati tient son nom, je vais juste dire ça brièvement, tient son nom d'un vrai Italien que j'ai rencontré lorsque je vivais à Amsterdam et qui, aux choses surprenantes, est un cuisinier italien qui est originaire des Abruzzes. Et c'est par cette rencontre et par quelques photos qu'il m'a montrées dans un livre de cuisine de son cru des Abruzzes, c'est lui qui a fait que je suis partie là-bas. Et j'ai été émerveillée par ces paysages sauvages et primitifs qui, encore une fois, témoignent, pour je ne sais pas combien de temps encore, d'un monde qui s'est perdu et dans lequel il y a une très grande âpreté, une très grande pauvreté, mais en même temps la connivence avec les éléments et avec une nature demeurée en grande partie préservée qui produit des êtres à la fois humbles et magnifiques. En particulier certains bergers dont j'ai entendu parler là-bas et qui a inspiré certaines figures du roman. Et donc, Giancarlo Achavati, ce cuisinier abruzzé, a donné son nom à un personnage dans le roman, le maestro, qui est en réalité un elfe et qui a pour mission de faire l'éducation de Clara, mais d'une façon elfique, non pas seulement en apprenant à écrire, à déchiffrer la musique, mais en la connectant à un monde de poésie et de d'osmose et d'harmonie naturelle dont ils partagent tous les deux l'intuition et le désir.
Les elfes, on voit beaucoup d'elfes dans la littérature fantastique, dans les contes, dans les livres de Tolkien, mais les elfes ici sont des êtres assez différents de ce qu'on a coutume de voir. Qui sont-ils ?
Mais ils ne sont pas très orthodoxes, puisque mon désir, vous l'avez sans doute compris, n'était pas d'écrire un livre de fantastique ou d'heroic fantasy, mais juste de témoigner de mon désir de connivence entre la nature et l'art. Et donc les elfes y ont pris, tu veux que je décrive ça ? Ils ont pris tout naturellement une figure assez étrange, puisqu'ils sont à la fois humains, animaux, en harmonie avec la nature, mais en amour de la poésie, mais d'une façon qui n'est pas très orthodoxe. Et dans la suite, on verra à quoi il ressemble leur monde, puisque là, à présent, on ne fait que parcourir les rues de Rome et les chemins de campagne de la Bourgogne. Et dans la suite, j'ai très envie de décrire ce qu'est le monde des elfes, et je crois qu'il sera, effectivement, tu as commencé par là, très japonisant, très kyotoïte.
Car en effet, les elfes vivent dans un monde autre, un monde parallèle, mais ils sont en connexion avec les humains, et ils sont fondamentalement bienveillants par rapport au monde des humains, et ils comprennent qu'il y a un danger. Ce danger, il vient d'un elfe dévoyé, une sorte d'ange déchu qui, par dépit, parce qu'il n'a pas réussi à accéder aux sphères supérieures du pouvoir elfique, va décider de se venger sur les humains. Et le roman raconte ce combat contre cette force maléfique, combat dans lequel les deux petites filles, alliées à certains elfes dont tu as déjà parlé, mais il y a un autre personnage dont je voudrais que tu parles, qui m'est très cher, c'est un dénommé Petrus. Donc alliées avec les deux petites filles, ces gens-là vont essayer de vaincre les forces qui s'opposent à l'humanité.
Alors Petrus est un personnage qui a surgi très très tard dans la mécanique narrative, parce que je dois avouer que c'était très compliqué d'écrire la vie des elfes. Autant mes précédents romans se sont écrits très facilement, avec une une fluidité et une rapidité que je n'ai pas retrouvée pour La Vie des Aigles. Pourtant, celui-ci a demandé beaucoup de travail parce que c'était une narration beaucoup plus complexe et parce que surtout, je ne comprenais pas ce qui surgissait. Et je ne savais pas moi-même élucider une grande part des mystères qui entouraient les deux petites filles. Et je savais en même temps que ça avait du sens, mais que ce sens était difficile à trouver et que je me trouverais en écrivant et en travaillant le texte de telle sorte qu'il rejoigne l'intuition première et qu'il finisse par prendre sens. Et du coup, j'ai beaucoup tâtonné, et en particulier la partie sur Clara, qui se déroule à Rome, et dans laquelle elle est en connexion avec ce maestro, a cherché son ton pendant très longtemps, parce que je ne connaissais pas la raison de tous les mystères qui avaient surgi, et parce que c'était difficile à écrire à plein de niveaux. Et puis a surgi un personnage qui a sauvé l'affaire. Et c'est un personnage qui apparaissait déjà dans une tentative de roman préalable que j'avais mis à la poubelle presque immédiatement tellement c'était mauvais, mais dans lequel il y avait déjà des elfes qui surgissaient. C'était après cette conversation sur les jardins japonais, et en particulier les deux elfes qui débarquaient un jour dans une librairie, parce que ça se passait dans une librairie, avaient des drôles de tête, et l'un d'eux était ivre mort et il n'avait pas du tout la tête de l'elfe traditionnel, et il était un peu bedonnant, pas très présentable, franchement alcoolisé. Et ce personnage a ressurgi à ce moment-là et s'est introduit dans la mécanique de telle sorte que le monde des elfes y prenne, pour moi, toute sa diversité et sa densité. Et donc Petrus, le bien nommé, va être un des personnages du volume suivant.
Oui, il arrive assez tardivement dans ce volume. Et on sent qu'il prend de l'ampleur et qu'il donne une touche d'humanité justement à ce monde elfique. Il est à la fois truculent, drôle, intelligent, un peu pitoyable par moments parce que c'est tout de même un fief et ivrogne. Mais il a ce caractère très humain, très proche que n'ont pas forcément le maestro dans son mystère un peu hautain. Mais lui, il y a une dimension fraternelle qui arrive à travers Petrus.
Mais oui, parce qu'au début, mes elfes étaient très elfiques, justement. Ils étaient très éthérés, très pétris de poésie et de grands dessins et d'amour des arts les plus élevés. Je sentais que ce n'était pas ça que je voulais. Je voulais, dans le monde des elfes aussi, une diversité qui, à la fois, respecte leur nature profonde, l'amour des arts et de la nature, et en même temps, ils introduisent une touche d'irrévérence et un grain de folie, et montrent les passerelles possibles entre le monde des elfes et le monde des humains. Et puis ça a permis que l'écriture trouve enfin sa voie, parce qu'une des grandes difficultés de La Vie des Elfes, ça a été l'écriture, ça a été le langage.
Alors justement, quittons un peu l'intrigue, puisque nous en avons déjà dit pas mal, et ceux qui n'ont pas lu le livre vont pouvoir découvrir ce qui se passe dans le roman, mais le travail sur la langue est très intéressant, surtout si on le compare au livre précédent, où il y avait une sorte d'ironie détachée, une utilisation de l'intelligence, des références culturelles qui étaient très, très pointues, très, très fines, très acides. Ici, on a l'impression que tu as voulu entrer dans une dimension tout à fait différente, qui tient à la langue française que tu utilises avec poésie, avec une recherche que l'on sent très, très intime, très profonde, d'une tonalité, d'une musique qui n'apparaissait pas dans L'élégance du hérisson ou dans Une gourmandise, les livres précédents.
Mais pour une raison très simple, c'est que j'ai écrit pour la première fois à la troisième personne, alors que je pensais que j'en étais absolument incapable, puisque mes deux premiers romans étaient à la première personne, que je pensais que c'était mon registre, que j'étais convaincue que je ne savais pas faire autre chose. Et lorsque j'ai commencé à écrire à la troisième personne, ça a été à la fois libératoire, jubilatoire et très compliqué. Parce que ça m'a permis, je ne sais pas pour d'autres auteurs, mais moi ça m'a permis de puiser dans des registres de langue et dans un vivier de langue beaucoup plus important. Et j'avais en tête une musique à laquelle je voulais arriver, qui a été compliquée à trouver. Il a fallu beaucoup couper dans le texte, il a fallu beaucoup raffiner, travailler les phrases, vérifier à chaque fois qu'elles retombaient sur leurs pieds, qu'elles avaient bien, pour la mélodie, le bon nombre de pieds, qu'elles ne s'étendaient pas trop, qu'elles ne se perdaient pas, en même temps qu'elles s'étiraient comme il fallait. Bref, tout ce travail-là a été extraordinairement jubilatoire et difficile, et lié au fait que c'était à la troisième personne. Et je n'ai jamais eu tant l'impression, en écrivant un texte, à la fois de souffrir beaucoup, mais en même temps de faire écho à tout ce que j'ai lu et à tout ce que je connais, au niveau qui est le mien, de la langue française. Parce que, en écrivant de cette façon-là, revenaient des pans entiers de toute mon éducation littéraire, et j'avais l'impression de pouvoir faire des hommages ou des clins d'œil à des choses lues il y a longtemps, parfois non identifiables, à d'autres que je connais. Et j'ai aimé ça, beaucoup. Et j'ai aimé aussi le travail artisanal qui fait qu'on part d'un matériau brut, insatisfaisant, et ça ne m'était jamais arrivé auparavant, et puis qu'on ne lâche pas l'affaire jusqu'au moment où on arrive enfin à une musique qui ressemble à celle qu'on avait en tête. Et je dois dire que Jean-Marie a toujours été un interlocuteur extraordinaire pour tous mes textes, mais là a été un interlocuteur décisif, parce qu'il y a besoin du regard de l'éditeur et du lecteur expert qu'il est pour comprendre de quelle façon il faut tailler et sculpter dans cette masse informe pour arriver à quelque chose qui scintille un peu.
Ce qui m'a beaucoup surpris au départ, c'est le choix que Muriel a fait, qui est une gageure de rassembler dans un même livre des registres qui sont a priori incompatibles, qui sont le registre naturaliste avec la description de la campagne, de la nature, et un attachement très, très précis à la description des sensations, des odeurs, des couleurs de la nature, des gestes des paysans, etc. Et puis le registre du conte, et le registre de la poésie aussi, et le registre fantastique. C'est très difficile d'allier ces univers qui sont tellement disparates a priori, et réussir à les coudre dans une même langue, à les faire fondre dans un même creuset, c'est un travail qui a dû être très très difficile à réaliser.
Mais c'était très difficile, et le plaisir était là, dans cette difficulté-là. Et ça, je ne l'avais jamais éprouvé avant.
Sur le projet du tome suivant, ne parlons pas de date, hein, ne parlons pas de choses qui fâchent, mais est-ce que tu as déjà travaillé sur un plan vraiment précis, ou est-ce que, comme pour ce livre-là, tu penses que l'architecture viendra au fur et à mesure de la construction, comme c'est parfois le cas pour certains écrivains, comme ça a été le cas pour ce premier tome.
Mais c'est ça qui est très compliqué, c'est de tenir l'entre-deux. Et il faut que je sais en partie où je vais, parce que c'est impossible de ne pas tenir compte de ce qui s'est déjà produit, et il faut qu'il y ait une suite logique et cohérente à ça. Et en même temps, il faut absolument que se conserve l'innocence qui fait que je ne sais pas encore moi-même ce qui va se passer. Et que je vais être surprise, émerveillée, épouvantée par ce qui va surgir au gré de l'écriture. Et c'est ce que j'ai trouvé très très difficile et en même temps très incroyablement précieux en écrivant le texte, et que j'imagine énormément d'auteurs ressentent, c'est de tenir le pari et le grand écart entre une histoire qui se raconte et qui ne peut pas se raconter n'importe comment, entre une narration qui doit prendre sens. Et même si on laisse son inconscient s'exprimer, il faut qu'ensuite les fils se tissent, parce que autrement on va n'importe où. Et la transe qui fait qu'on abandonne tout contrôle parce qu'on veut accueillir en soi une musique de langue et une trame invisible et insoupçonnée. Et je pense que ça va être la même chose pour le volume suivant. Je sais qu'il y a une guerre, je sais quels sont les personnages qu'a priori j'ai envie de retrouver, Je sais qu'on va aller dans le monde des elfes et dans leur jardin magnifique, mais aussi partager leur bataille, parce qu'il y a une guerre dans le monde des elfes aussi. Mais je ne sais pas comment ça va se passer, du tout. Et c'est ça qui est à la fois extrêmement effrayant. J'ai l'impression que je vais devoir regravir l'Everest, et en même temps fabuleusement excitant.
Est-ce que tu as une explication sur le succès de L'élégance du hérisson? Est-ce que tu comprends? Parce que pour les éditeurs, c'est un mystère. On n'arrive pas bien à analyser ce qui s'est passé autour de ce livre. Un livre qui n'a pas été tellement remarqué par la presse au début, qui n'a pas eu énormément d'articles, qui avait un tirage tout à fait ordinaire. Et qui, petit à petit, a pris son élan, porté par le public, par le bouche à oreille, mais pour quelle raison? Qu'est-ce qui a pu toucher tellement de lecteurs, non seulement en France, mais c'est ce qui est encore plus étonnant, à l'étranger, parce qu'il a eu un réel succès public dans de nombreux pays?
Aucune idée. Mais vraiment, aucune
Zut.
Idée.
Si, Muriel, pour cette présentation.
Merci
à vous.
Merci beaucoup à vous. Merci.